Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et au menu du Carrefour ce matin, l'édito M, Sonia De Villers, bonjour.
Grosse battle sur YouTube, bonjour à tous.
Chris Esquer, ça va? Bonjour.
Oh, bonjour, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous dire comment secouer un bébé efficacement.
Oh, non. Et non, surtout pas. Et tout de suite, la revue de presse, Claude Askolovitch.
Claude, on parle de la révolte contre les impôts ce matin.
Et c'est une révolte qui s'incarne physiquement contre les centres des impôts et des fonctionnaires qui y travaillent, dit le Parisien dans son dossier de une. La foule hurlait « Fasciste, collabo !» C'est quoi l'étape suivante? La guillotine? Ainsi s'interroge un fonctionnaire d'une trésorerie de Poitiers, assiégé la semaine dernière par des gilets jaunes. Tandis que la trésorerie de Saint-Andiol dans le Vaucluse a été visée par un engin incendiaire, le centre des impôts de Rion-Puy-de-Dôme a été l'objet d'une tentative d'incendie, et celui de Limoges a été percuté par un tracteur. Et des articles au fil de la presse régionale confirment le Parisien. Le centre des finances publiques de Brive a été muré dans la nuit de mardi à mercredi. La montagne des gilets jaunes du Pas-de-Calais voulait bloquer ce matin le centre des impôts de Longuenesse, la Voie du Nord. Et cette révolte s'exprime contre une administration qui elle-même est victime de choix politiques, car on supprime des emplois au fisc, et depuis des jours dans l'Indépendant et ce matin dans le Parisien, on parle d'une grève perlée à la trésorerie de Perpignan contre des effectifs insuffisants. Le débat fiscal est relancé par la crise des gilets jaunes. Ainsi titre les Échos dans une pondération rafraîchissante. Quand ailleurs les unes bruissent de pouvoir aux abois, libération ou de montée des périls, l'opinion. Quant à la une de l'Humanité, on évoque la violence insensée dont seraient victimes des lycéens. Mais la propre violence de ces lycéens effraie dans la Provence le recteur de l'académie locale. Le débat fiscal donc. Car il y a effectivement avant les paroxysmes des décisions prises par des gens sérieux qui ont des conséquences. Le président Macron paye sa faute fiscale, dit l'Obs, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et on revit dans l'hebdomadaire cette volonté farouche du début de quinquennat, quand Emmanuel Macron voulait faire, en dépit des conseils, ce que Nicolas Sarkozy n'avait pas osé. Tout ça. Pourquoi? L'Obs cherche où est passé l'argent rétrocédé, il ne le trouve pas vraiment. Le Point parle aussi des impôts, mais à l'inverse de l'Obs, prône l'allègement libéral. Et un jeune homme qui discute souvent avec le président, Mathieu Laine, exhume Turgot, qui fut ministre de Louis XVI et dont le programme soulageait la France dans les années 1770 avec un triptyque, point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt et une inquiétude toute actuelle. Le peuple est si aisé à tromper que peut-être j'encourrais sa haine par les mesures mêmes que je prendrais pour le défendre contre la vexation. Ainsi parlait Turgot, qui fut renvoyé par le roi après avoir néanmoins instauré le libre-échange dans le royaume et avertissait Louis XVI dans une lettre prophétique « Je souhaite que votre règne soit aussi heureux et tranquille pour vous et pour vos peuples. On sait comment cela finit », dit le Point. Voilà donc la révolution promise dans un hebdomadaire à Emmanuel Macron s'il oublie l'obstination
et
la révolution.
Et les journaux, Claude, cherchent encore la nature du mouvement des gilets jaunes.
Et ils débattent entre eux et d'eux-mêmes nos journaux qui racontent les souffrances sociales et en même temps se demandent parfois s'ils ne sont pas dupes. L'Obs écrit ainsi un porte-parole gilet jaune, un homme que nous avons reçu dans ce studio, Jean-François Barnada, qui dans l'Indre touche un salaire de fonctionnaire territorial de 2600 euros net alors qu'il ne travaille plus depuis 10 ans. Fonctionnaire momentanément privé d'emploi, momentanément depuis le 31 décembre 2008. Malaise. Mais les gilets jaunes existent pourtant et ils imposent leur agenda, titre le courrier Picard, en français et en Picard. Nous sommes dans ces allers-retours entre une réalité sociale et nos doutes et peut-être nos remords. À Toulouse, le sociologue Nikos Mirnaios a passé au crible d'un logiciel lexicométrique 29 188 posts et commentaires Facebook et plus de 2 millions de tweets devenus de la planète gilet jaune. Et il dit ceci à Uzbek Kirika, les médias n'ont pas saisi le discours de fond. Ils ont circonscrit le mouvement dans un ghetto culturel des amateurs de voitures. Et il le disait déjà la semaine dernière, Smirnianos, à Arrêt sur Image, les gilets jaunes sont politisés. On l'admet maintenant, mais la politisation n'est pas une chose simple. On a lu dans Libération un texte devenu une référence du journaliste Vincent Glade. Les gilets jaunes s'organisent, explique-t-il, et se parlent entre eux dans des groupes Facebook que ne pénètrent pas les informations venues de la presse, car l'algorithme de Facebook, ce que vous recevez, privilégie la proximité au détriment des médias. C'était pour la firme une manière de rassembler la société américaine. Cela devient ici un risque majeur. Lisez dans Le Monde comment un bobard absolu après d'autres pénètre les gilets jaunes. Emmanuel Macron se préparait à vendre la France à l'ONU et 480 millions de migrants se préparaient à venir détruire l'Europe. On lit cela sur ces groupes Facebook gilets jaunes. Il s'agit simplement d'un pacte mondial sur l'immigration symbolique élaboré à l'ONU pour réguler les flots de réfugiés qui sera discuté bientôt à Marrakech, Mais ce pacte est devenu un repoussoir et un fantasme pour les extrêmes droites et les droites dures, en France aussi. Et Le Monde décrit le cheminement de la rumeur qui devient sur les barrages une croyance. Pendant ce temps, Le 1 consacre son numéro de cette semaine à ces migrants latinos qui rêvent d'Amérique et sont bloqués au Mexique, à Tijuana. Photo magnifique d'espoir à la une du journal. Car voyez-vous, la planète vit encore à côté de nos affres.
Oui, et les journaux parviennent quand même parfois à témoigner que cette vie se poursuit.
Et elle est faite de 1000 petits défis jolis qui tous parlent du peuple. Elle est faite d'une statue de Johnny Hallyday haute de 10 mètres que des fondus ont fabriqué en Mayenne et que vous voyez dans Ouest France. Elle est faite de ces ouvriers du luxe en Lorraine, Belverry, de Baccarat, qui détiennent un savoir-faire précieux et fragile, mais que des investisseurs chinois ont racheté. Quelle est notre fragilité? Vous verrez enfin, dans La Voix du Nord, quatre hommes tellement beaux du poids de leur âge et de leur destin suspendu. Ils sont les salariés d'Ascoval, des fondeurs, qui ne vont peut-être plus pouvoir travailler à cause d'une décision de justice. Ils veulent travailler encore, titre La Voix du Nord. Chaque mot, chaque visage, chaque lettre, j'ai commencé à 16 ans comme gamin de course, j'ai connu le feu continu. Chaque mot dans La Voix du Nord, chez ces hommes, inspire le respect.
Merci Claude Ascolovitch pour la revue de presse.